Couture dans le mythe. We want to have a good time. Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Radio X.
Ah, ben c'est rien de moins que la démission de Bernard Drainville que demande la FAE. Là. Ça, c'est un syndicat d'enseignants.
Ouais.
Les autres, ils sortent un matin, puis la porte. Ils demandent la porte à Drainville.
Bon.
Quand même, les enseignants ont eu de très bonnes augmentations de salaire. Hein?
Pas à plaindre.
Hein? Je sais pas, là, on a mis beaucoup d'argent là-dessus, là. On va peut-être mettre de l'argent, peut-être après ça, ces écoles. Ça se peut-tu?
Bon. Non. As-tu vraiment besoin de mettre de l'argent à ces écoles ou bien on laisse les toits tomber tout seul?
Ben non, mais là, les écoles, tu vois comment ça tombe en ruine. Notre chroniqueur, il est là?
Toujours là.
Yes!
Chronique politique avec Rodolphe Osny.
Rodolphe, comment vas-tu?
Bonjour Pierre, bonjour Louis, bonjour Québec, je vais bien, il fait chaud, demain c'est la Saint-Jean,
oui.
C'est notre avant-dernière chronique, tout va bien.
Tout va bien, tout roule sur l'huile, comme on dit, si on est capable de l'avoir. Sondage Palace, la semaine dernière, la CAQ aurait zéro député, c'est incroyable.
Oui, ça fait ses forts, si tu me permets l'expression, ce sondage Palace. Où la CAQ à 15% et selon 15%, selon la projection de siège de Québec 125 de notre ami Philippe Giffournier, exactement comme tu viens de le dire, ça donnerait un gros zéro en termes de députés. Donc, tu passerais d'un gouvernement super majoritaire aux dernières élections qui avait 90 députés à zéro. Et ça, ça veut dire, tu sais, des grosses stars comme ça qui tomberaient. Donc, c'est pas un bon sondage, bien évidemment. Aussi, ça peut peut-être expliquer pourquoi la CAQ est pas pressée d'aller, en tout cas, en élection partielle à Arthabasca. Et surtout, ça explique aussi, tu vois, les dernières élections partielles qu'ils ont perdues au PQ, par exemple. Donc, il leur reste un peu plus qu'un an, mais un coup de sonde qui fait très, très mal. Normalement, les sondages, pendant l'été, augmentent, puis les gens sont contents. Mais on verra s'il y aura d'autres coups de sonde durant l'été. Mais oui, celui-là, là, en tout cas, pour clôturer la session parlementaire à Québec, ça fait mal.
Est-ce que Legault là, va prendre, tu sais, on dit l'expression « marcher dans la neige », là, marcher dans le sable, là, pourrait prendre une décision, je pense pas, là, mais lui dit qu'il est encore capable, puis il veut se battre, puis il aime ça, lui, des sondages à zéro, là.
Oui, exactement. Quand il est rentré de Paris, il a commenté les sondages en disant que ce sondage qui fait très mal, ben lui, ça lui donne la force, ça lui donne encore envie de se battre encore plus. Écoute, le problème de la CAQ, on l'a dit puis on le redit, c'est qu'il y a plusieurs gros chantiers, mais ces gros chantiers ne montrent pas de résultats.
Ouais.
Et quand, en tant que citoyen, tu te dis, attends, là, ça veut dire, on n'a pas l'impression que les services aux citoyens ont augmenté, que les réformes, par exemple, Santé Québec ou quoi que ce soit, c'est pas plus facile d'avoir en tout cas un médecin de famille où ça va mieux. Puis, sur le point de vue économique, on regarde là, la fameuse gestion des comptables de la CAQ avec François Legault qui est comptable, avec Éric Girard qui est un comptable, avec anciennement M. Fitzgibbon qui était comptable. Tu regardes Northvolt, tu regardes la décote, tu regardes le déficit, tu regardes les finances publiques, tu regardes la filière batterie. Tu te dis, bon, les comptables, là, c'était pas extraordinaire en termes de gestion économique. Et ça fait qu'il y a un désir de changement, en tout cas, moitié usure de changement, moitié usure du pouvoir, et ce qui nous donne une remontée du Parti libéral du Québec, et c'est peut-être juste l'effet que les gens sont en train de transférer leur vote de la CAQ vers, par exemple, le Parti libéral du Québec.
Ouais, ou le PQ, là, parce que le PQ est en tête, mais l'équation Pablo Rodriguez n'était pas là. Je pense que c'était pas fort dans le sondage, mais éventuellement, là, on est en train de voir revenir au bercail certains libéraux déçus de la CAQ. Ça va être à suivre. Et là, tu vois, là, tu sais, quand on dit gérer au jour le jour, ça peut épuiser là, un gouvernement. Ben là, on annonce des compressions importantes en santé, oui, mais en éducation. La FAE là, qui vient de sortir pour demander la démission de Bernard Drainville. Quand même bizarre aussi, là. On dit qu'on pourrait fermer des écoles aujourd'hui s'il fait trop chaud.
Oui, non, mais cette idée-là de faire l'école le 23 juin, là, celle-là, je la comprends pas. Là, ça veut dire l'école, elle aurait pu se terminer. Vendredi dernier, il y a des camps de jour qui commencent aujourd'hui. Demain, c'est férié. Ça veut dire, c'est pas comme s'ils allaient faire grand chose, en tout cas, aujourd'hui. Donc, oui, ceux qui ont soi-disant fait le calendrier ou les, je sais plus comment on les appelle là maintenant, les commissions scolaires.
Les centres de service.
Ouais, bon, ben, c'est ça. Bon. Ceux qui ont fait ça, puis honnêtement, c'était pas, je pense que c'est Bernard Drainville qui avait dit c'est pas l'idée du siècle, l'école le 23 juin. Je pense que sur celle-là, il y a raison, mais t'as raison en termes de Bernard Drainville quand même. ça va être difficile de justifier des compressions ou en tout cas le ralentissement du budget. Parce que, écoute, tu regardes les classes actuellement, puis tout le monde le dit, là, c'est-à-dire l'aide à la classe en a besoin. Il y a plus en plus d'enfants qui ont des plans d'intervention qu'on appelle. On a besoin de différentes professions de soutien. On a besoin d'amour dans nos écoles en termes d'infrastructures. En hiver, les fenêtres, ils s'ouvrent pas, ils se ferment pas. En été, ils s'ouvrent pas. Donc, tu vois un peu les problèmes. Donc, pour M. Drainville, c'est toujours le même défi parce que les besoins, ils sont presque illimités, mais les finances publiques ne le sont pas.
Donc, ça va être à suivre, cette histoire-là, parce que ça, ça pourrait percoler cet été puis encore faire mal à la CAQ, hein, d'intention de vote, si tout ça, là, toutes ces mesures-là de coupeux, compression, les gens vont repartir en vacances, tu vas entendre parler des enseignants qui vont dire « ça n'a pas de sens, ils m'ont donné 108 000 piastres de salaire, mais on n'a pas d'école, on n'a pas de service auto ».
Oui, et puis attends, on n'a pas encore commencé à parler de la rentrée. Là, souviens-toi des mélodrames de l'été, il nous manque tant de professeurs, puis après, ça ne va pas être des professeurs, ça va être je ne sais pas quoi, puis après, ça va être seulement des adultes dans la classe et tout. Là, attends-toi au mois de juillet, au début août, quand ça va sortir, il manquera combien de profs, puis combien de classes, etc., etc., etc. Donc, on va voir si cet été, on va connaître le mélodrame de « Ah, est-ce que mon enseignant ou mon enseignante sera de retour? »
Ouais, donc ça va être à suivre. Carney, en Europe, tu dis qu'il y a beaucoup de politique, hein?
Oui, c'est un voyage qui est quand même très intéressant. Donc, ça veut dire que M. Carney est arrivé à Bruxelles et est en Belgique aujourd'hui pour le sommet Canada-Europe. C'est quand même un sommet qui est important pour deux éléments. Le premier, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on a un accord de libre-échange avec l'Europe. Là, ouais. C'est-à-dire que c'est bien beau, puis on n'arrête pas de dire qu'il faut se diversifier, il faut se diversifier des États-Unis. Bien, on en a un accord de libre-échange, en tout cas, avec l'Europe. Donc, c'est bien, je pense, qu'on en parle et qu'on essaye à chaque fois de renforcer du point de vue économique les liens entre le Canada et l'Union européenne. D'ailleurs, je suis très content parce que j'ai travaillé sur cet accord de libre-échange à l'époque du gouvernement Harper et c'est un message aux entreprises de l'utiliser. Le deuxième message qui va être intéressant, c'est que l'Europe est en train de se réarmer à un plan de plus de 1000 milliards d'euros en termes d'investissement militaire. Et ce serait intéressant de voir le Canada, est-ce qu'il va faire partie, en tout cas, de ce plan de l'Europe pour se réarmer? Est-ce que le Canada sera un partenaire? N'oubliez pas que le Canada, on doit acheter, par exemple, des sous-marins et d'autres éléments. Est-ce qu'on va essayer de diversifier un tout petit peu puis de ne pas tout acheter aux États-Unis puis de voir avec l'Europe si on peut à la fois acheter des choses de l'Europe, mais aussi produire une industrie militaire au Canada, peut-être aussi avec l'Europe. Donc, ce serait intéressant de voir donc un message à la fois économique et militaire. Et ensuite, après cette rencontre, en tout cas en Belgique, M. Carney va en Hollande, aux Pays-Bas, pour le sommet de l'OTAN, où, attendez, là, vous vous souvenez qu'on a parlé du fameux 2%, puis oui. Le Canada va finalement respecter ce 2%. Ben, attache-toi à tuque, parce que maintenant, on parle de 5% de dépenses militaires de certains pays, en tout cas d'un consensus qui voudrait sortir de ce sommet de l'OTAN. Donc, écoute, ça veut dire beaucoup, beaucoup d'argent. On va voir si ce fameux 5%, est-ce que ça va être accepté? Puis surtout, ça va être comment ça va être calculé? Puis ça va être quand? Là, est-ce qu'on parle de 2035, 2040, 2045, etc., etc.?
Ah, puis là, tu as Trump aussi qui fait de la pression là, pour que ça monte à 5%, là.
Oui, mais le plus drôle et le plus ironique, c'est que Trump il dit « Ouais, ouais, il devrait dépenser 5% les autres pays, mais même les États-Unis, ils ne dépensent pas 5%. » Donc, ça veut dire que je crois qu'ils sont à 3,5 si ma mémoire est bonne et tout ça. Puis le Canada, on vient à peine l'année prochaine, on sera à peine à 2%. Et là, maintenant, on voit certains pays. Je pense qu'il n'y a que la Pologne ou d'autres qui sont presque comme ça, qui frôlent les 5%. Mais il y a d'autres pays comme l'Espagne qui sont pas d'accord ou en tout cas que ça va être un exercice difficile. Puis après, il va y avoir aussi toute la mécanique, comment tu le calcules et tout ça. Est-ce que c'est des infrastructures? Est-ce que c'est juste les dépenses militaires? Regarde, nous au Canada, on a fait un petit tour de passe-passe en disant, allez, la garde côtière, ça fait partie de la défense, puis on met ça dans le calcul.
Oh, oui. Canada-USA, là, on a eu le sommet du G7 la semaine dernière. On pensait qu'il allait avoir un accord rapide entre le Canada et les États-Unis sur les tarifs, libre-échange, tout ça. Là, on étire. Est-ce qu'on a un espoir d'avoir quelque chose rapidement? On n'est pas sûr.
Non, on n'est pas sûr. C'est en tout cas l'annonce que M. Carney a fait. Il faut savoir que M. Carney a rencontré les premiers ministres des provinces virtuellement vendredi dernier. Il y a aussi eu cette annonce de M. Carney que s'il n'y a pas de pourparlers, s'ils aboutissent pas en tout cas sur les tarifs et la sécurité, ben le Canada serait prêt à faire des représailles. On sait que le Canada n'a pas encore fait des représailles supplémentaires concernant les tarifs sur l'aluminium et l'acier qui sont passés de 25 à 50. Et surtout, on a entendu de M. Carney qui a fait une annonce. Premièrement, l'ambassadrice du Canada aux États-Unis qui s'appelle Kirsten Hillman va être renouvelée encore une autre année avec des responsabilités supplémentaires. Elle va être aussi la chef négociatrice pour Canada-États-Unis. Donc, beaucoup de travail pour Mme Kirsten Hillman, mais surtout M. Carney, qui doit réussir en tout cas à avoir une entente ou un début d'entente avec les États-Unis. Parce que bon, c'est quand même lui qui nous l'a vendu. J'ai un plan chez négocier, etc., etc. Ouais. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que si d'ici trois semaines, il y a un mois, il n'y a pas une entente, ben, on va recommencer dans la dynamique de contre-représailles.
Ouais, puis Trump doit livrer, là, parce que là, tu as son super son projet de loi le budgétaire là, qui a passé le
big
vote.
Ouais, ben, c'est ça.
Exact. Ouais. Il a passé le vote à la Chambre des représentants, mais là, il est rendu au Sénat. Et là, s'il n'y a pas d'entente, qu'est-ce qu'il va faire? Là? Comment il peut dire qu'il va justifier des tarifs? Il va y aller unilatéralement, les Chinois. Là, il y a le Royaume-Uni qui a signé. Le Canada va sûrement servir d'appât là, pour essayer d'amener d'autres joueurs. Trump doit livrer, lui aussi, de son côté. Là.
Oui, et puis bon, le Canada aussi doit faire attention. Ça veut dire, d'un côté, on négocie avec les États-Unis. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec l'Europe, ou en tout cas le sommet Canada-Europe. On va voir aussi s'il y a, par exemple, des annonces militaires que le Canada dit, ben, nous, on arrête d'acheter des États-Unis et on achète de l'Europe. Est-ce que les Américains et M. Trump aussi vont faire des représailles en disant, comment ça, vous achetez plus du matériel militaire américain?
Ouais.
Donc, tu vois que c'est un peu difficile. Il y a toute une géopolitique. Et bien évidemment, on a appris ce matin que M. Carney, en tout cas, a eu une discussion avec M. Trump et c'était au sujet de l'Iran.
Ouais, puis Canada très prudent, hein? On dirait qu'il veut jouer le négociateur là, entre peut-être l'Iran, Israël, États-Unis. Trump n'a pas l'air à vouloir aller là. Et ça, ces frappes américaines-là, là, on vient de sauter dans la mêlée. Là. Ça pourrait avoir des incidences au cours des prochaines semaines sur la géopolitique mondiale. Là.
Oui, c'est très intéressant parce que premièrement, M. Trump, au début, puis c'était sa porte-parole qui l'avait dit que M. Trump ou les États-Unis n'allaient rien faire pour deux semaines. Et ensuite, surprise, on a appris samedi qu'il y a eu ces bombardements, que trois sites nucléaires iraniens ont été bombardés avec ces fameux bombardiers B2 qui permettent de frapper souterrain, faire des frappes qui vont aller dans les infrastructures souterraines. Mais ce qu'on a aussi remarqué, c'est qu'il y a quand même un consensus, même les Européens, même le Canada, par exemple, ont tous fait des communications en disant qu'on ne peut pas avoir un Iran qui a une arme nucléaire, donc on est d'accord avec ça, mais après qui appelle à la déescalade des relations entre, en tout cas, les États-Unis et l'Iran. Puis aussi, même les États-Unis, on n'est pas très sûr, parce que d'un côté, tu avais M. Vance qui disait on veut pas de changement de régime, puis on n'attaque pas l'Iran, on attaque seulement le programme nucléaire. Puis ensuite, tu as M. Trump qui en met une couche sur son réseau social qui dit « make Iran great again » et que bon, qui ouvre aussi la porte à un changement de régime.
Oui. Donc,
tu vois que on dirait que des deux côtés, entre M. Vance et M. Trump, puis que l'Europe de l'autre côté comprend les États-Unis, veut pas non plus poke the bear, comme on dit avec M. Trump, mais comprennent aussi que l'Iran, on peut pas s'assurer pour la sécurité de tous les pays d'avoir un Iran nucléaire.
Oui, mais ça fait longtemps que les Américains demandent un changement de régime là, en Iran. Là. C'est les années 80, souvenez-vous, la crise des otages aussi. C'est pas d'hier que ça date, là.
Oui, mais on dirait que là, maintenant, cette fois, en tout cas, que les Américains eux-mêmes bombardent l'Iran, c'est quelque chose qui est allé à une autre étape que Obama n'a pas fait, que Biden n'a pas fait. Donc, on voit vraiment qu'ils ont escaladé, en tout cas, le conflit. Israël est bien évidemment très content des frappes et Israël dit, écoute, avant d'avoir la paix, ben il faut la forcer, la paix, et il faut en tout cas détruire ses installations. Mais là, selon certaines informations, M. Trump avait dit, la frappe a été un succès. Là, maintenant, on apprend que peut-être ça n'a pas été détruit, que peut-être l'Iran s'était préparé et avait déplacé certains éléments, leur centrifugeuse ou je ne sais pas quoi. On va voir, est-ce que c'est de la désinformation de l'Iran et tout ça. Il y a toujours ça, la guerre psychologique. Mais en tout cas, ça montre que le conflit quand même a été monté à un autre niveau avec des frappes américaines et que les autres pays européens, puis on va voir aussi ce qui va se passer au sommet de l'OTAN mercredi, quelles vont être les communications concernant l'Iran.
Ouais, parce que là, Israël, ce matin encore, continue les frappes. Là. On bombarde à Téhéran. Là. On y va. Là.
Oui, non, c'est ça. Puis écoute, est-ce qu'eux, après, ont mis ça dans des zones où il y a plus de civils et qu'après, Israël ou les États-Unis ne vont pas frapper? Ça va être aussi ça la question. Ça veut dire, une fois qu'ils ont peut-être identifié d'autres sites, si après ils utilisent la population comme un peu l'expression bouclier humain, ben ça va compliquer tout le travail.
Parce qu'on veut un changement, là. Les Molochs sont là, on veut les débarquer de là.
Ben, c'est intéressant parce que M. Trump, tu vois, comme je te dis, il souffle le chaud et le froid. On se souvient que la semaine dernière, il avait même fait un tweet en disant « Je sais où est le guide suprême, je sais où il est, mais on va pas le tuer pour l'instant. » Donc, tu vois qu'à chaque fois, il envoie des messages qui sont un tout petit peu difficiles à suivre.
Mais ils veulent faire bouger. D'après moi, c'est ça aussi. Ils veulent les suivre. Ils les suivent par satellite, là, de toute évidence. Tu étais au gouvernement, Harper, à l'époque. Cette question-là, là, Palestine, Israël, là, c'est toujours, hein, il faut. Le Canada, là, ont toujours jonglé d'un côté comme de l'autre.
Ben, écoute, on a toujours une position, puis honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup de différence. Il y a toujours la position qu'on souhaite une solution à deux États. Donc, ça veut dire un État israélien puis un État palestinien qui vivent en paix et en sécurité avec des frontières définies. Ensuite, c'est toujours le problème, quelles sont les frontières, etc., etc. Mais c'est sûr que la position du Canada, puis ça n'a pas changé depuis longtemps, c'est une solution à deux États. Mais le problème, c'est que quand tu as une partie de la... surtout quand il y avait Gaza qui était contrôlée par le Hamas, ben tu peux pas comme ça d'avoir et négocier avec des interlocuteurs comme ça. Donc, c'est un peu ça la difficulté. Il faut, pour aider les Palestiniens aussi, il faut que les Palestiniens cèdent. Et on comprend aussi tout le temps que Israël dit que c'est notre existence qui est en jeu. Ça veut dire que si on se défend pas, ben on pourrait être rayé de la carte. Et n'oublions pas que ça fait partie de la rhétorique de certains pays de dire notre objectif, c'est de rayer Israël de la carte. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver à trouver un équilibre pour qu'il y ait une coexistence de ces deux peuples dans cette région. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Ah, ben écoute, c'est des décennies, même des centaines d'années là, que c'est chaud, c'est une poudrière dans ce coin-là. Je suis pas sûr qu'on va réécrire l'histoire en quelques minutes. Là.
Non, on peut retourner aux Romains et la diaspora et la destruction du temple.
Rodolphe Osni, c'est toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Salut.
Merci, Pierre. Merci, Louis.
Bye-bye. Voilà. C'est pas évident. Israël et tous les autres pays autour.
Mais dans ce coin-là, ça va.
Palestine, je veux dire, Palestine. Tabarouette. Non, mais je veux dire, c'est compliqué. Là. C'est pas. Moi, je règle rien à matin. Là. On fera pas ça là.
Non, non, c'est idéologique. Puis ça part de bien, bien, bien plus loin que tout ce qu'on connaît. Puis aujourd'hui, ils se battent pour des raisons que probablement eux ne connaissent même pas. C'est juste parce qu'ils s'haïssent un et l'autre mutuellement depuis tellement longtemps.
C'est des générations de haine.
Exact.
Qui...
C'est proliféré.
Exact. Fait que, regarde, on ne réglera pas ça là. Mais là, l'Iran, ça bouge.
Ouais.
Les aiguilles bougent.
Ils sont mieux d'attacher leur tuque avec de la broche, d'après moi.
Ouais, on ouvre les lignes après la pause.
Oui, monsieur.
Où tu veux aller?
Ben justement, on va rester un peu dans ce coin-là. Les tensions qui montent. Vous autres, ça vous fait-tu peur? Pensez-vous que le prix du gaz va monter? Pensez-vous
pour l'instant, le pétrole est stable.
Mais je suis bien curieux de vous entendre. À chaque fois qu'on en parle, ça fait bien réagir sur le texto. Ouais. Ben justement, 88-670-9098. Réservez-vous un circuit et on veut avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que ça va dégénérer? Est-ce qu'on est à la veille d'une troisième guerre mondiale? Peut-être, on sait pas.
Bon, moi, je crois pas à ça, la troisième guerre mondiale. Mais... L'Iran, on ne sait pas, ils ont-tu une bombe nucléaire, eux autres-là? Là? Ils en ont peut-être une, mais ils l'ont cachée quelque part.
Peut-être. Toutes ces questions-là.
C'est peut-être un as dans leur jeu.
On peut en jaser. 88-670-9098.
On revient après la pause.
Couture. Dans le vide. Radio X.